Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau Crumbs. Comme d'habitude, on part en France, encore une fois, du côté de Vernouillet, si je ne me trompe pas. Et on va rencontrer France Lise. Bonjour, France Lise.
Bonjour, Sabine.
Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, afin que tout le monde puisse te connaître?
Oui, bien sûr. Alors, je suis France-Lise Labrana, donc je suis coach en développement personnel, en PNL humaniste. Donc, j'accompagne les enfants, les ados, les adultes et aussi je fais du coaching de couple.
D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que PNL humaniste, s'il te plaît? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement ça?
Alors oui, en fait, la PNL, c'est un courant qui permet, en fait, qui vient des États-Unis. Qui vient des États-Unis, qui est la programmation neurolinguistique. D'accord. Alors, la programmation neurolinguistique, c'est un courant qui est vraiment axé sur la communication à soi et la communication aux autres. Et donc, à travers cette programmation neurolinguistique, on peut aborder différentes thématiques, différentes propositions qui peuvent être faites par la personne. Et aussi, la PNL, elle est souvent employée pour certains qui vont connaître dans le management, dans tout ce qui concerne la communication, dans la gestion des conflits. Donc, c'est assez varié.
D'accord. Alors, quand on dit communication pour soi-même, c'est-à-dire écouter son corps, écouter ses émotions?
Exact, c'est exactement ça. C'est-à-dire l'écoute à soi. C'est vraiment communiquer avec soi, apprendre à gérer ses émotions, se gérer soi, écouter aussi son corps, parce que le corps parle, même si il ne le dit pas verbalement, mais le corps, il parle. Quand on dit qu'un corps symptomatise, il somatise. Donc, dans ce cas, ça veut dire que le corps aussi montre certains symptômes quand il ne va pas bien.
Faut d'accord, savoir c'est que... pas le mal à dire.
C'est ça. C'est mal à dire, effectivement, c'est-à-dire que le cerveau aussi, le cerveau a une fonction très importante par rapport au fonctionnement du corps. Le cerveau, le corps et le cerveau sont indissociables.
Et du coup, le cerveau transmet toutes les douleurs au corps, qui fait que, en fonction de notre attitude, on peut savoir ce qu'il faut faire pour éviter telle ou telle chose. Ou comment ça fonctionne un petit peu ça?
Alors souvent, on ne sait pas. Sinon, ce serait trop facile. Voilà, mais souvent, le fait que quand il y a un souci par rapport à son corps, souvent, il nous permet un peu de détecter ce qui ne va pas. C'est-à-dire que la personne va s'interroger sur son mal-être, le symptôme, en fait, qui est arrivé, et s'interroger aussi pourquoi, pas forcément le pourquoi, mais comment il est arrivé. À quel moment et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça arrive de manière un peu plus négative en fait.
D'accord, bon ben merci pour toutes ces explications parce que c'était la fameuse question qu'on m'a demandé pendant l'émission lorsque j'ai parlé un petit peu de ton parcours et justement on va y revenir à ton parcours. Quel est-il, s'il te plaît? Quelle étude tu as fait? On sait que pendant un moment tu as travaillé aussi dans tout ce qui était social, donc comment tu as évoluer au niveau de tes études, comment tu es passé par le social et comment aujourd'hui tu es arrivé à cette qualification?
Alors, le social, donc en fait, effectivement, j'ai un grand parcours professionnel puisque j'ai fait quand même des choses assez variées, mais qui se ressemblent, voilà, qui ont tous un point commun, donc l'humain, voilà, pour être très clair. Donc moi j'ai commencé, pour venir un peu sur le bac, voilà, j'ai passé un bac économique et social, donc c'est vrai que le social m'intéressait déjà beaucoup. Donc par la suite, une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai fait une année de droit en attendant d'intégrer justement une école d'assistante sociale.
D'accord.
Voilà, donc je suis partie en métropole pour faire mes études, passer les concours, puisqu'à cette époque il y avait encore les concours d'entrée. Et donc j'ai fait mes études dans le Calvados, dans une école de recherche de travail social, l'Institut de recherche du travail social de Caen, Hérouville-Saint-Clair. Donc c'est quand même 3 années d'études avec des stages. J'ai fait des stages aussi variés puisque j'ai fait un stage à la CAF, j'ai fait aussi un stage à l'Action sociale des armées. Je suis revenue aussi en Guadeloupe pour faire un stage en Guadeloupe auprès de l'Éducation nationale. Voilà. donc dans ma commune de prédilection d'ailleurs. voilà. Et puis, j'ai fait aussi un stage en psychiatrie fermée et aussi en hospitalisation, donc les services de soins de suite et réadaptation.
D'accord. Et du coup, comment tu as eu l'idée de créer ta propre boîte, hein, puisque justement, toi, tu es chef d'entreprise. Qu'est-ce qui a poussé, quel est le déclic, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer, à te mettre à ton compte?
Alors, au départ, ce n'était pas un déclic. C'est-à-dire que quand j'ai continué à travailler en tant qu'assistante sociale et ensuite, en fait, il me manquait des choses. Personnellement, il me manquait des techniques ou j'avais envie d'apprendre plutôt d'autres techniques pour pouvoir approfondir ma pratique professionnelle.
D'accord.
Et c'est vrai que nous, dans notre milieu, c'est quand même assez fermé parce qu'on n'a pas beaucoup d'alternatives, en fait, pour pouvoir évoluer dans nos métiers. À part des concours pour être cadre, etc. Moi, ce n'était pas ce qui m'intéressait dès le départ. Mais c'était vraiment comment je peux me positionner autrement par rapport à mes patients, par rapport aux personnes que je rencontre habituellement, pour pouvoir trouver d'autres techniques et les aider dans leur cheminement. Et du coup, j'ai intégré une école de PNL, voilà,
Super.
la programmation neurolinguistique, où au départ, c'était uniquement pour avoir des techniques. Parce que la PNL, nous, dans les écoles d'assistante sociale, on utilise plusieurs courants aussi. Donc, vous avez la PNL, la systémie, l'analyse transactionnelle et bien d'autres encore. Sauf qu'on le voit, on le balaye un peu. On le voit très rapidement, ce n'est pas vraiment étayé. Et c'est vrai que la PNL
D'accord.
m'avait déjà intéressée déjà depuis l'école.
D'accord. Donc là, tu as appris plus profondément vraiment les techniques et tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut comprendre.
Exactement. Et puis, au départ, en fait, en école de PNL, hein, il y a plusieurs niveaux. Donc, tu as le niveau du technicien, donc ce qui te permet d'avoir des outils bien plus concrets dans l'immédiat. Après, si tu veux continuer, tu continues au praticien et le maître praticien. Et après, plus, si tu as envie, pour aller jusqu'au psychopraticien.
D'accord. Alors, quelle est la différence de palier de tout ce que tu expliques justement?
Alors, ce sont les protocoles et les techniques que tu apprends. C'est-à-dire que
D'accord.
plus on monte en niveau, parce que je ne vais pas dire en grade, mais en niveau, plus les techniques sont plus. Voilà, on va vraiment dans la profondeur du cheminement de la personne.
D'accord. Donc, c'est de plus en plus pointu.
Exactement. Et même en termes de techniques de communication, en termes de tout ce qui est apprentissage en neurosciences, hein, parce qu'on apprend aussi la neurobio, on est formé aussi en complément à la psychopathologie. Donc, la psychopathologie adulte et enfant. On a la possibilité de faire de la traumatologie. Donc, moi, je suis formée aussi en psychotrauma.
D'accord.
Et puis, on est vraiment sur. On a de la supervision. Donc, on est quand même encadré dans notre pratique. Et ça, c'est super intéressant. Et on travaille aussi sur la systémie familiale et bien d'autres, encore
D'accord.
d'autres possibilités.
D'accord. Est-ce qu'à ce niveau, c'est toujours dans du social ou est-ce que c'est vraiment du médical?
Alors, ça c'est la bonne question. Alors,
Comme d'habitude.
c'est pas du médical parce que on n'est pas docteur. Moi, je ne suis pas docteur et on n'est pas sur des techniques de médecine en soi, comme on peut entendre la médecine. C'est-à-dire, je vais pas écouter ton pouls, je
Pas
ne vais
comme un
pas
psychologue.
faire une chirurgie. Voilà, on n'est pas sur des actes
Oui.
médicaux. On est quand même, mais par contre, ça peut s'entremêler.
Avec le psychologue, par exemple.
Voilà, ça s'entremêle avec le psychologue, ça peut s'entremêler aussi parce que des fois, quand on a des psychiatres, hein, nous on travaille beaucoup aussi avec des psychiatres, des psychologues, qui à un moment donné dans leur accompagnement font que pour eux, les limites de leur accompagnement par rapport à la personne fait que ben, ils n'arrivent plus à avancer forcément. Donc il y a une certaine stagnation en fait. Et donc,
D'accord.
nous, notre rôle justement dans le coaching, c'est de faire avancer la personne. C'est de l'aider surtout à avancer par rapport aux problématiques qu'elle rencontre. Et là, nous, on est vraiment sur le quotidien, sur le présent et aussi ben, la
D'accord.
projection vers le futur.
D'accord. Donc c'est là que la partie sociale intervient, c'est-à-dire que si le psychologue il est arrivé au bout de tout ce qui était mental, donc vous vous débloquez, par exemple, comment ça se passe à la maison, comment ça se passe avec les enfants, comment ça fonctionne? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu manges bien? Comment vous faites au niveau social pour arriver au bout justement?
Alors, pour arriver au bout, donc en fait, dans le coaching, nous, on est plus sur. On va d'abord tabler sur un objectif. Donc, effectivement, on va creuser avec la personne. Donc, la personne elle-même, elle fait le travail. Hein. On va la questionner. On va vraiment être dans cette relation avec la personne pour qu'elle puisse émerger un objectif. Et en fonction de cet objectif, elle va pouvoir aussi se poser la question. C'est toujours ce que je pose aussi comme question. Qu'est-ce que je veux pour moi ?
D'accord.
Voilà, qu'est-ce que je veux pour moi ? Et cette question va être quand même primordiale parce que souvent, on reste sur des choses, comme on dit, en surface, alors que des fois, il y a quand même des choses un peu plus profondes. Et c'est à ce moment-là qu'on va vraiment chercher la profondeur et aussi ce qui anime encore plus la personne dans sa quête, voilà, d'aller mieux.
D'accord. OK. Donc, c'est du feng shui, mais à l'américaine, en gros.
Ouais, un peu.
Et c'est quoi la différence entre les deux ? Est-ce que tu saurais, par exemple, quelle est la différence entre les deux ?
Entre quoi et quoi ?
Le feng shui et le PNL.
Bah, le feng shui, alors moi, le feng shui, souvent, je l'utilise. Alors après, c'est en fonction de la vision qu'on a du feng shui. Moi, le feng shui, pour moi, je le vois plus dans la maison. Pour moi, c'est plus matériel.
D'accord.
Effectivement. Après, la PNL, on n'est plus sur du mental. On est vraiment sur du mental. Le mental agit sur le corporel, donc le comportemental. Et c'est ce qui fait qu'on va récupérer, en fait, on récupère, oui, l'ensemble du processus de la personne pour pouvoir le modifier avec elle en fonction de ses propres besoins.
D'accord. Bon, ben, c'est super. Alors, du coup, tu ne nous as pas répondu. Comment tu as eu le déclic pour te lancer et pour te dire, bon, moi, aujourd'hui, je connais, je me lance et j'ouvre ma boîte.
Bah, quand on arrive au maître praticien et qu'on s'est dit, mais c'est super, en fait, cette formation et que je suis déjà dans le social et que je me dis, mais ouais, bah, en fait, je pense que je peux faire quelque chose de plus humain, j'ai envie de dire. D'accord. De plus humain, mais de plus individuel. Comme on dit chez nous, c'est grain de riz qui a fait sac de riz. Bah là, c'est un peu la même chose. C'était un peu ma même théorie en me disant que de toute façon, pour moi, il est difficile de travailler trop dans le collectif puisqu'on ne pense pas tous pareil et qu'on n'est pas fait tous pareil non plus. Maintenant, si je peux aider une personne à une petite échelle, si je peux l'accompagner dans son processus et pouvoir aussi l'aider dans sa quête et vraiment me concentrer aussi sur ce qu'elle souhaite, elle, et pas forcément les autres, bah, je trouve que c'était mon objectif premier.
D'accord.
Et du coup, le fait de me dire que j'ai déjà cette fibre sociale que j'avais, puisque bah, j'ai quand même fait 10 ans en tant qu'assistante sociale, voilà, donc déjà, j'avais déjà cette fibre dans la relation, parce que c'est important aussi, la relation de confiance, la relation d'aide. Donc, j'étais déjà en capacité de le faire, même déjà, sachant que je le pratiquais déjà, même en tant qu'assistante sociale, je mettais quelques outils, etc., qui faisaient que ça changeait aussi ma pratique professionnelle. Et donc, en fait, indirectement, je tendais vers là. Vers le coaching.
D'accord.
Et après, j'ai envie de dire, quand on veut être entrepreneur, c'est aussi qu'il y a une raison bien précise qui fait qu'on aime bien aussi être à son compte et aussi faire ce dont on a envie de faire, sans forcément avoir de contraintes particulières, même si on a un cadre légal hein, quand même pour exercer notre activité. Voilà, on l'exerce pas comme ça comme on le souhaite, mais se dire que je n'ai pas d'attente, en fait, que je n'exécute pas, plutôt. Voilà, je n'exécute pas une directive qui ne me plaît pas. Parce que comme dans tout métier, on a des directives qui nous plaisent ou pas, ou qui nous mettent en difficulté ou pas. Mais voilà, des fois, ça peut être très frustrant en tant que salarié, hein, aussi, d'avoir des patrons qui ne nous comprennent pas, qui en tout cas ne répondent pas non plus à nos attentes, parce qu'en tant que salarié, on a aussi des attentes par rapport à notre patron, notre chef d'entreprise. Et là, bah, être son propre chef d'entreprise, voilà, on ne peut s'en prendre qu'à soi-même.
Oui.
Mais au moins...
Effectivement.
Voilà. Mais au moins, la déception, pour moi, elle est moins grande. C'est-à-dire que je peux me faire confiance aussi sur ce que je suis capable d'apporter à l'autre.
Ça, c'est bien, surtout quand on est dans le social.
Exactement.
C'est primordial. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qu'il manque aux assistantes sociales qui exercent depuis une quarantaine d'années.
Ah, mais moi, je suis une fervente là-dedans. Toutes les assistantes sociales que je connais, je leur dis, mais si vous avez envie d'aller voir autre chose ou au moins d'augmenter, en tout cas de chercher une richesse, une autre richesse à votre pratique, puisque si on fait ce métier...
parce que c'est très mécanique.
Voilà, parce que si on fait ce métier, il y a quelque chose. Et il y a quelque chose à l'intérieur. Si on fait ce métier, c'est qu'il y a quelque chose qui nous anime pour le faire. Maintenant, des fois, à un moment donné, on sature, comme dans tout métier aussi, mais on peut saturer. Parce que le social, c'est pas simple. On voit beaucoup de choses tous les jours qui sont pas simples non plus. Voilà, on est face à la misère du monde aussi, hein, faut le dire. Des problématiques de tous, on est dedans. On vit avec les gens ce qu'ils vivent. Et ça peut être très compliqué à gérer. Et souvent, moi, je vois les assemblées sociales et je leur dis aussi, ben, les collègues, ben, si vous avez envie d'agrandir votre richesse, vos compétences, n'hésitez pas à vous former aussi. N'hésitez pas à aller voir ce qui vous anime et pas forcément la PNL, même si je trouve que c'est un très, très bel outil, de très, très belles méthodes. Mais vous avez une pluralité aussi de méthodes qui existent, comme la systémie, comme... voilà, il y en a vraiment plein. Il y en a vraiment plein. Il faut trouver celle qui vous correspond.
D'accord. Alors, par rapport à ton métier, toi, tu étais assistante sociale pendant 10 ans. Est-ce que tu étais en quartier un petit peu sensible ?
Non, je n'étais pas forcément en quartier sensible parce que moi, j'ai travaillé principalement en hospitalier. Alors après, en hospitalier, on est confronté à tout type de personnes qui viennent des quartiers sensibles ou pas. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu des fois la polyvalence de catégorie parce qu'on fait aussi de la polyvalence de secteur.
Donc tu as tout.
C'est un peu ça.
D'accord. Donc, le fait d'avoir tout vu, est-ce que tu vois la différence entre la manière dont tu pratiquais avant, puisque tu étais déjà dans le social, le but c'était déjà d'aider les gens. J'imagine que ça ne doit pas être évident lorsqu'on se rend compte, lorsqu'on rencontre une femme battue, des femmes violées, des hommes qui ont des accidents, qui perdent leur emploi, qui ont des envies suicidaires et tout. Est-ce que tu vois vraiment la différence entre le métier tel que tu le pratiquais avant et ton métier maintenant, tel que tu le pratiques aujourd'hui?
Ah oui, il y a une grande différence. Et puis, j'ai envie de dire, il y a ma frustration, j'ai moins de frustration. Parce que quand on commence en tant qu'assistante sociale, bah, notre objectif, c'est d'aider les gens. Voilà, sans faire de détour, c'est aider les gens. Aider et les soutenir. Sauf que aider quand la personne ne veut pas, ça ne sert à rien. Et sauf que nous, en fait, je pense que dans notre vocation, on a tellement envie de bien faire aussi pour l'autre. Mais c'est comme si, en même temps, on se dit, tu as intérêt à l'aider. Et en fait, rien que le fait de changer sa vision des choses en se disant, ben, si la personne ne souhaite pas, de toute façon, tu n'y arriveras pas, tu pourras t'épuiser et mettre tous les efforts que tu veux, ça n'arrivera pas, puisque la personne elle-même n'est pas prête. D'accord. Et ça, ce sont des choses aussi qu'on nous forme pas assez là-dessus. Donc, ça absorbe beaucoup d'énergie, le fait de se dire qu'on doit aider les gens, parce que c'est pour nous un devoir, c'est même le droit d'aider les gens aussi. Ils ont le droit d'être aidés. Donc, le fait que si eux ne sont pas acteurs de leur évolution, nous, on ne peut pas faire plus. Sauf que dans notre quête aussi, on a envie qu'ils avancent. On a envie. Et ça, c'est épuisant. C'est très épuisant et ça demande beaucoup d'énergie. Et puis, on a un boulot aussi qui est devenu très administratif.
Et oui.
Ça aussi, ça a été très, très compliqué, je pense, pour toutes les assistantes sociales. Parce que quand on a commencé à travailler en tant qu'assistante sociale, on était encore dans la question de la relation. La relation d'aide, la relation de confiance. Voilà, il y a un cheminement qui se crée aussi par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'administratifs à faire. On doit beaucoup se protéger aussi, puisque ben, les lois, les gens portent plainte, etc., etc. Donc, ce ne sont pas des métiers pour lesquels voilà, qu'on peut prendre à la légère non plus.
D'accord, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est devenu très mécanique ces dernières années. C'est vrai que c'est peut-être lié au fait qu'il y a de plus en plus de misère sociale et que c'est devenu beaucoup plus difficile pour tout un chacun. Maintenant, tout le monde essaye de s'en sortir. Alors, comment fonctionne ton activité? Où est-ce que tu es installée? Comment les gens te rentrent en contact avec toi? Est-ce que ta clientèle, tu l'avais déjà puisque tu connaissais déjà des gens qui étaient dans une certaine demande d'aide? Comment ça fonctionne?
Alors, donc déjà, moi, j'ai un cabinet à Vernouillet. J'en ai un autre que j'ai ouvert récemment à Cherres, puisque je n'ai pas le même temps de disponibilité en fonction des deux cabinets.
C'est génial. Deux cabinets, c'est déjà très bien.
Oui, bon, après, il y a des choix à faire.
Oui.
Je pourrais aussi pour plus tard. Voilà. Parce que voilà, c'est aussi un engagement. Alors, en termes de clientèle, alors moi, c'est beaucoup la relation de confiance aussi avec les personnes que je connais. Donc, qui m'ont recommandé. D'ailleurs, je me rappelle toujours, ma première cliente a été une de mes prestataires avec qui je travaillais pas mal et qui avait envie que je l'aide à arrêter de fumer et avoir un projet un projet de faire un enfant. Et je l'ai accompagnée dans sa démarche et effectivement, ça avait très, très bien fonctionné. Et du coup, après, c'est vrai que c'est beaucoup de recommandations, c'est beaucoup de bouche à oreille. Alors, mais on se recommande aussi en tant que collègue de formation. On est reconnu aussi du fait qu'on appartient à la NLPNL, qui est une grande institution qui représente tous ceux qui pratiquent la PNL et en tout cas et qui ont été formés par les écoles reconnues dans ce sens. Voilà. Donc après, les clients viennent un peu de partout. Alors, l'avantage que j'ai, c'est que, effectivement, moi, dans mon cabinet, je prends aussi toutes mes expériences, le fait que j'ai travaillé dans le médical, que j'ai travaillé quand même dans tout ce qui est maladie, soins palliatifs, neurologie. Donc, j'ai pas mal de clients qui sont confrontés à la maladie aussi, qui viennent consulter. Je reçois pas mal aussi d'enfants, des enfants donc, qui ont des difficultés au quotidien, des difficultés scolaires, dans les relations aussi avec les parents. Les ados aussi qui sont en quête d'identité, qui se cherchent. Donc, les parents qui sont inquiets leur proposent de venir, mais en même temps, après, voilà, ça fonctionne bien. Ils apprécient l'accompagnement. Donc, du coup, ils apprennent aussi beaucoup de choses sur eux parce qu'on travaille essentiellement sur eux. Donc, c'est intéressant. Et le fait que je sois aussi spécialisée en psychotraumatologie, donc effectivement, je peux recevoir des personnes qui sont victimes de violences conjugales, violences verbales, psychologiques et autres. Donc c'est vrai que j'ai des casquettes assez variées qui me permettent aussi de garder cette pluralité que j'aime, d'ailleurs. Voilà, que j'apprécie. Et en fait, c'est vrai que les personnes viennent de partout. Donc, c'est vrai qu'avec le confinement aussi, j'ai développé un peu plus aussi les séances en visio. Ce n'est pas forcément la meilleure pratique, ça, je peux l'avouer. Mais en tout cas, ça fonctionne. Puisqu'effectivement, on est dans la relation. Donc, le face-à-face, c'est ce qu'il y a de mieux. Et je pense, quel que soit le professionnel, qu'on soit d'accord. Mais c'est vrai que ça permet aussi d'étendre aussi le champ, c'est-à-dire que les gens ne sont pas obligés de venir qu'en cabinet. Je peux un peu étendre ma pratique professionnelle sur toute la France, voire même à l'international, puisque ça m'est déjà arrivé.
D'accord. Voilà. Bon, ça, c'est une très bonne chose. Et justement, tu as abordé le sujet avant que je pose la question. Par rapport au Covid-19, alors, on parle beaucoup de distanciation sociale. Déjà, je ne sais pas pourquoi on appelle ça sociale. Moi, je trouve que c'est plutôt la distanciation physique, puisque je trouve qu'au contraire, les gens, socialement, se sont resserrés, puisqu'ils sont forcément, par rapport à l'économie, où c'est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup de choses qui ont émergé. On voit, par exemple, en Guadeloupe, les agriculteurs, il y a eu des plateformes qui ont été créées pour de la livraison. Enfin, socialement, les gens, je trouve que les liens se sont resserrés. Donc, est-ce que toi, tu trouves un changement dans la société par rapport à la mentalité qu'on avait avant ? Donc, je m'explique pour que ce soit très clair. Moi, par rapport aux entrepreneurs, je vois de plus en plus de personnes qui dépriment et ça devient de plus en plus difficile pour eux de se dire qu'on va surmonter la crise. Donc, est-ce que tu vois des problèmes par rapport à cette dépression, on va dire, collective qu'il y a de plus en plus dans la société, parce qu'au niveau économique, c'est important aussi, il n'y a pas que la santé physique, mentalement, ça ne va pas, on n'est pas au top du top de la forme. Est-ce que tu trouves qu'il y a des nouvelles pathologies qui se sont développées par rapport à ça? Par exemple, plus de gens qui ont mal de tête, de ventre, je ne sais pas. Est-ce que tu trouves qu'il y a un changement par rapport à ça?
Alors, oui, quand même. Alors, d'un point de vue sociétal, j'ai envie de dire, pour faire large, il y a quand même un mouvement où les gens deviennent de plus en plus phobiques, en fait. Et effectivement, la Covid-19 n'a pas arrangé les choses. Et effectivement, aujourd'hui, les gens, tout le monde a peur de tout le monde. Pourquoi ? Parce que on peut le contaminer, c'est à cause d'un tel que j'ai été hospitalisée, etc., etc. Ce qui est aussi une réalité, bien sûr. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais c'est une réalité. Donc, effectivement, les gens s'évitent en même temps. Il y a quand même un rapprochement solidaire, mais les gens s'évitent. Donc, comme tu parlais de distanciation, effectivement, la distanciation physique, elle est bien présente. Puisque les gens ne veulent pas non plus s'approcher physiquement. Et ce que je peux comprendre, puisque la maladie, elle est là. C'est une réalité quotidienne. Maintenant, effectivement, les gens sont un peu plus craintifs aussi, ils ont peur, puisque effectivement, il y a quand même une crise économique, faut le dire. Elle est là, elle est présente. Et beaucoup de personnes perdent leur commerce, perdent leur activité principale, qui fait que, ben, effectivement, s'il n'y a pas de revenus qui rentrent dans le foyer aussi, ben, tout le reste est compliqué. On est dans un système où l'argent est quand même très important
Oui.
et a une valeur quand même aussi très importante par rapport à d'autres. C'est aussi très culturel et aussi la fonction travail, c'est-à-dire la valeur travail qui est quand même très importante dans certaines cultures où si j'ai pas de travail, ben je ne suis rien. Donc
D'accord.
effectivement, tout ce système psychologique et mental va induire chez la personne un certain dopant traumatisme, mais aussi un certain syndrome dépressif qui fait que si je n'ai pas de travail, je ne suis rien, bah, qui suis-je en fait? Et donc, je dépéris au fur et à mesure. Et donc, c'est quand même compliqué, souvent avec ces personnes, de se dire, je vais pouvoir faire autre chose que rester à la maison. Parce que non, en fait, comme on leur a enlevé indirectement leur plus grosse partie de leur identité, donc du coup, ils ne peuvent plus remonter la pente ou ils n'y arrivent plus parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas les ressources nécessaires pour pouvoir remonter. Et tu me
Comment on
diras,
peut...
c'est là aussi que j'interviens, mais...
Oui, bah justement, c'est pour ça que je pose la question, parce que je me dis que ça doit être une partie importante qui va arriver bientôt, on va le voir arriver. Je pense que ça va être une vague plus grande que celle du Covid,
Oui.
mais comment on peut... Remonter ça parce qu'il y a des gens, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes qui justement ont entrepris pendant la crise, mais je sais pas, malgré le fait qu'ils arrivent à entreprendre et que ça fonctionne, on dirait qu'il y a une espèce d'étincelle qui a disparu. Donc je ne sais pas si c'est par rapport à la situation, trop de distanciation sociale, mais c'est compliqué. Donc qu'est-ce que tu en penses, toi?
Bah, alors après, c'est une question aussi de génération. Comme je disais, je parlais des valeurs. Le jeune qui vient d'entreprendre pendant la Covid, il n'aura peut-être pas la même motivation qu'une personne, j'en sais rien, de à peu près de 50 ans.
D'accord.
Donc, c'est important aussi de vraiment faire attention à cette échelle,
D'accord.
puisque ce sont pas les mêmes motivations, il n'y a pas les mêmes enjeux aussi derrière. Et un jeune, j'ai envie de dire de 20 ans ou de 30 ans, il a encore toute sa jeunesse encore. Voilà, il a encore toute sa jeunesse pour pouvoir créer, inventer, être créatif encore de son côté professionnel. À 50 ans, on n'a pas forcément envie, on n'a plus envie forcément. Pas tous, mais certains n'auront plus envie, puisque
D'accord.
ben, leur aboutissement, c'était justement de finir tranquillement
Leur
leur
carrière.
vie professionnelle, voilà, leur carrière professionnelle, pour pouvoir être libérés après de tout cela.
D'accord.
Sauf que ben, les projets sont modifiés. Et ce n'est pas forcément de leur propre volonté. C'est-à-dire aussi qu'on n'a pas de maîtrise sur cette maladie. Et le fait qu'on ne maîtrise pas, que certaines personnes ne peuvent pas maîtriser quelque chose, ça peut avoir aussi des conséquences très néfastes sur leur personnalité psychique ou même voilà, leur état dépressif et psychologique.
D'accord. Et tu penses que ceux qui subissent le plus, ce sont les jeunes, parce qu'on disait que la jeunesse ne serait pas sacrifiée. Eux, les jeunes, collectivement, là, je parle de la société, se sentent sacrifiés. On a envoyé les enfants à l'école parce qu'on estimait que le confinement, c'était pas bon pour eux du tout, parce qu'ils pouvaient pas jouer avec leurs amis et tout, et que c'est important pour les liens humains. Et il y a beaucoup de personnes âgées qui sont décédées du confinement. Est-ce que tu penses qu'il y a dans ces trois catégories de personnes différentes en termes d'âge, hein, est-ce que tu penses qu'il y en a qui ont plus souffert que d'autres, hein,
Alors,
qui auront plus mal à se
il y a différents plans, en fait. C'est-à-dire que il y a un premier plan qui est quand on est jeune, on va souffrir de quoi concrètement? Ben, effectivement, dans l'avenir, on ne sait pas de quoi attraper l'avenir. On ne sait même pas ce qui se passera dans 2 mois. On ne sait pas ce qui se passera dans 1 an, dans 10 ans, etc. On ne sait pas si ce virus sera encore là ou pas. Donc, effectivement, il y aura peut-être un... Ce sera peut-être difficile pour des jeunes de retrouver, en fait, de retrouver ou de se projeter dans une vie qu'ils ont
D'accord.
vue, c'est-à-dire celle de leurs parents, qu'ils ne pourront pas forcément reproduire parce que tout sera modifié. La projection de la valeur travail qu'ils ont eue par rapport à leurs parents. Donc effectivement, ce sera peut-être pas le même mode de fonctionnement qu'ont eu leurs parents qui va se développer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de télétravail. Donc effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, les jeunes exerceront leur activité professionnelle peut-être plus en télétravail que nous quand on l'a été. Donc ça, c'est aussi un changement, voire une modification du système.
D'accord.
Donc il faut savoir que les jeunes s'adaptent plus
À toutes les
ont une
situations.
capacité
D'accord.
d'adaptation, voilà, ils ont une capacité d'adaptation qui est plus importante que certaines personnes en fonction de leur âge.
D'accord.
Donc effectivement, si vous demandez aujourd'hui à une personne de... J'ai rien contre les cinquantenaires, hein, mais voilà, je prends
Oui.
toujours cette référence-là parce que je trouve que c'est quand même très, très parlant. Une personne à 50 ans, vous lui demandez de faire son travail tout à l'ordinateur alors que ce n'est pas
Oui.
forcément sa
Et sa
génération, hein,
mentalité.
comme on dit, sa mentalité, ben, du coup, ce sera peut-être plus complexe pour cette personne de se dire, ben, je dois me projeter encore dans 10 ans avant mon départ à la retraite en faisant ce même type de travail en télétravail. Ça peut être plus complexe et ça peut aussi engendrer d'autres pathologies
Donc,
derrière.
ça serait plus les
Donc,
cinquantenaires qui seraient le plus impactés psychologiquement, quoi.
alors, oui et non, hein, je te dirais, j'ai eu des clients, j'ai une cliente de 37 ans, 38 ans, qui, ben, le fait d'avoir fait du télétravail à domicile a déclenché chez elle une pathologie au niveau visuel. Donc, voilà, parce que c'était beaucoup d'ordinateurs, c'était pas la même configuration qu'à son travail. Donc, effectivement, les conditions n'étaient pas les mêmes.
D'accord.
Donc, voilà. C'est vraiment en fonction des âges, en fonction de la génération, en fonction aussi de ses propres capacités d'adaptation. Moi, je pense que c'est surtout ça qui va être important. C'est quel est presque mon taux d'adaptation par rapport à où il y a un changement qui est quand même un changement forcé, en fait,
Oui.
hein, où on n'a pas le choix.
Effectivement.
Donc, c'est aussi ce qui est important de se dire. C'est-à-dire que là, on ne maîtrise pas, on n'a pas le contrôle sur ce qui va se passer. Et on nous demande en plus de se suradapter à cette situation.
D'accord. Donc là, concrètement, ton activité tombe à pic.
Ouais.
En gros, c'est ça, parce qu'on aura vraiment
Oui.
besoin de toi ben, dans les années à venir. Là, ça va être, on va voir vraiment commencer à avoir le ressenti. Surtout qu'en France, il y a eu les gilets jaunes. Bon, moi, je n'ai
Ah
rien
oui, non,
contre
mais...
les gilets jaunes, hein, mais je parle au niveau économique. Il y a eu un impact et ça s'est cumulé, en fait. Donc, il y a eu plusieurs crises au fur et à mesure. Et
Mais bien
là, on
sûr.
arrive au bout, hein. D'ailleurs, on le voit quand les gens demandent par rapport aux aides, les dates qu'ils doivent donner, ça correspond à des dates de grève des Gilets jaunes et du coup, ça devient compliqué. Donc, effectivement, on aura besoin de ton activité dans les années à venir. En tout cas, c'est très bien ce que tu as fait.
Ben, merci. Mais effectivement, je voulais juste rajouter, puisque c'est vrai que je fais aussi du coaching de couple.
Oui.
Et effectivement, la communication entre couples est quand même très importante. Vous voyez que de plus en plus, ben, les couples doivent rester confinés à la maison ensemble. Quand vous n'avez pas l'habitude d'être sur un fonctionnement de couple, vous voyez presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça peut être très, très compliqué,
Oui.
puisque du coup, on ne se supporte pas forcément. Donc, effectivement, c'est important de prendre ce point-là en compte. Et souvent, ben, après, ben, c'est le moment aussi où on voit que ben, on ne communiquait pas forcément ensemble, qu'il est important de développer d'autres techniques de communication et que c'est important d'aller consulter un professionnel qui peut être l'intermédiaire pour pouvoir après remettre tout cela à jour.
Bon, ben ça, c'est très important, surtout le confinement a repris. Donc, information à ne pas négliger. En tout cas, merci beaucoup pour cette petite interview. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux Guadeloupéens ou un conseil? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Oui, soyons motivés, restons motivés. Et puis, croyez en vos rêves. Moi, j'ai envie de dire croyez en vos rêves parce que quand on veut arriver à faire quelque chose, c'est important de se donner les moyens et se donner les moyens pour obtenir ce que l'on veut. Mais si on a juste un projet en se disant j'aimerais faire ci et sans forcément trouver les ressources nécessaires ou les moyens ou comment y arriver, cela ne servira pas à grand-chose. Et je pense que les Guadeloupéens, il y en a beaucoup qui sont malheureusement restés sur des choses assez basiques en se disant j'ai pas les compétences, j'ai pas la capacité. Qui aurait dit quand j'étais plus jeune que j'allais ouvrir mon entreprise et que j'aurais fait du social
Oui.
et que j'accompagnerais cette pluralité de personnes pour leur bien-être. Bah, moi, je n'étais pas la première à y croire, forcément, mais toutes mes expériences, en fait, je m'en suis servie pour pouvoir faire quelque chose qui est cohérent pour moi. Et c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux pour moi au fond de moi-même?
D'accord, super conseil, j'adore. Je suis totalement fan. En tout cas, c'est génial. Merci beaucoup pour cet encouragement. Notre jeunesse, en plus, elle en a vraiment besoin. Donc, on peut leur rabâcher. On va leur taper dessus avec le marteau en leur répétant cette phrase afin que ça rentre vraiment bien dans leur crâne. Parce que c'est très, très important. En tout cas, merci beaucoup.
Voilà, bah, n'hésitez pas à continuer aussi à me suivre. Hein. Je suis sur YouTube, sur Internet. Mon site
où ça,
Internet,
sur YouTube
Alors, bah, j'ai mis quelques vidéos sur YouTube, puisque effectivement, j'ai fait des conférences en ligne grâce au confinement. Donc, je me suis lancée, alors que ce n'était pas forcément mon dada, comme on dirait.
Le nom du compte, c'est quoi?
Alors, c'est Francis Labrana.
Tout simplement.
Voilà, tout simplement. Et vous verrez, bon, pour l'instant, j'ai 5 vidéos. Mais voilà, le but, c'est d'en faire plusieurs et aussi de proposer des techniques, voilà, et surtout de sensibiliser. Voilà, je ne suis pas une professionnelle diplômée, j'ai envie de dire, je n'ai pas fait un doctorat, je ne suis pas ingénieure, mais ce qui était important pour moi, c'était de véhiculer ce que l'on sait de manière très accessible. Voilà, de manière très accessible, comme je parle aujourd'hui. C'est-à-dire sans faire de formation spécifique, neurosciences, etc. Là, c'était vraiment quelque chose d'accessible et pour sensibiliser les personnes à ce qui peut se passer aussi pour elles-mêmes.
D'accord. Bon, ben, en tout cas, c'est parfait. Merci beaucoup, Françoise.
Merci à toi.
Au revoir à tous et on se retrouve bientôt pour un prochain Promsup.